Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Je suis très heureux de vous retrouver. D'abord, pour un nouveau récit que nous avons décidé de consacrer au film Mignonne.
En place, les filles. Allez.
Mais regarde-moi cette casse, sérieux. Elle
deux, trois. Allez, Pumba. Allez, Pumba. Allez, Pumba. C'est qui Pumba? C'est Pumba. C'est qui? C'est Pumba. La meilleure.
Mignonne qui sort en DVD VOD. Alors, on va vous raconter l'histoire de ce film. Depuis sa sortie très attendue, ses prix en festival, jusqu'à la polémique, née d'abord en France, accusant la réalisatrice d'hypersexualiser les petites filles. Polémique qui a rebondi aux États-Unis lors de sa diffusion sur Netflix. Certains politiques appelant même au boycott. Alors pourquoi? D'abord, que raconte ce film? Que dit-il de notre société? Ce sera notre récit du jour. 14h30, les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Pierre Ninet qui répondra à notre questionnaire. Allez, un premier indice, quel est le chef-d'œuvre qu'il déteste?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Eh oui, Pierre Ninet déteste Les Demoiselles de Rochefort. Pour connaître la suite de son questionnaire de Proust version cinéma, restez avec nous. Et puis à 3h moins le quart, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films qui sortent sur vos plateformes en DVD, VOD. On parlera notamment aujourd'hui de One Night in Miami sur Prime Video. Nous débattrons de Revenir ou bien du dernier film de Woody Allen. Ça s'appelle Un jour de pluie à New York et c'est sur Canal+. Voilà pour le programme de votre Clap. Mais d'abord, donc, notre récit consacré au film Mignonne.
Europe 1. Le récit.
Nous sommes le 24 février 2017, il y a presque 4 ans. Le monde du cinéma découvre alors Maïmouna Doucouré, jeune réalisatrice, qui reçoit ce soir-là le César du meilleur court-métrage pour son film « Maman ». C'est un récit en partie autobiographique, l'histoire d'une petite fille qui cherche sa place dans une famille polygame, élevée à la fois par sa mère biologique, mais également par une autre femme de son père. Écoutez-la sur scène lorsqu'elle remercie.
Vraiment merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans cette incroyable aventure qui est maman. Je remercie du fond du cœur toute mon équipe, mes comédiens. J'ai la chance d'avoir avec moi ce soir mon chef opérateur Yann Marito, la pépite Sorna Diallo qui a porté ce film du haut de ses 10 ans. Je remercie toute l'équipe de Bien ou Bien Productions et l'une des plus belles rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, mon producteur Zangro. Je remercie ma famille. Vous savez, le jour où j'ai dit à ma mère que je voulais faire du cinéma, elle m'a dit « c'est pas pour nous. Est-ce que tu vois des gens qui te ressemblent ?» Aujourd'hui, maman, j'espère que j'ai réussi à te prouver le contraire.
Dans quelques minutes, Maïmouna Doucouré devient un symbole à la fois de diversité, mais aussi de tous ces problèmes que le cinéma ne traite jamais. La polygamie, par exemple, ou bien comment trouver sa place dans la société quand on est noir, pauvre, femme. 3 ans seulement après le sacre de ce court-métrage, Maïmouna Doucouré sort donc son premier long-métrage, le titre « Mignonne ». L'histoire d'Ami, une jeune adolescente de 11 ans qui s'initie à une danse très sensuelle, qui s'appelle le twerk. Son objectif, rejoindre un groupe de danseuses de son collège qu'elle admire et fuir ainsi les tensions au sein de sa famille.
Je danse avec vous.
Quoi?
Je remplace Steve.
Mais tu sais même pas danser. Et j'ai pas le temps de t'apprendre. La présélection, c'est dimanche. Mais c'est trop bien, tu connais la choré.
Par contre, je sais pas si les filles vont vouloir.
Alors Mignonne va tout rafler en festival, ou presque. À Sundance aux États-Unis, le film remporte le prix de la meilleure réalisation. À Berlin, il décroche la mention spéciale. Mignonne sort donc dans les salles françaises et Netflix rachète les droits pour le reste du monde, ce qui lui promet une très belle exposition.
Thank you so much.
Merci Sundance beaucoup au festival de Sundance pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'aimerais juste vous dire que je suis là aujourd'hui plus féminine que jamais.
Yeah. And
et que je viens de remporter ce merveilleux prix à Sundance avec mon premier long métrage. Comme le dit Oprah Winfrey, tu deviens ce que tu crois. Mesdames, croyez simplement et nous deviendrons. Merci.
Je veux dire que tout le monde est sous le charme de Maïmouna Doucouré et de son film. La presse, aussi bien française qu'internationale, est emballée. Écoutez la réalisatrice au micro d'Europe 1.
Je me situe clairement dans le personnage d'Ami, parce que je pense qu'au-delà de l'aspect sociétal que je dépeins à travers ce film, il y a toute mon intimité que j'y mets et je règle mes comptes. Oui, vraiment, et je fais ma thérapie. C'est ça, je trouve ça puissant le cinéma pour ça. Enfin, l'art en général. Des fois, on a des blessures et je trouve qu'utiliser l'art pour en faire quelque chose et ne pas rester avec, ça a été assez précieux pour moi.
Et ce que salue notamment la presse, c'est justement l'histoire et l'angle choisi par Maïmouna Doucouré. Cette petite fille qui a une représentation erronée de la femme, de ce que doit être la femme.
Cette jeune fille de 11 ans est complètement tiraillée. Elle s'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire de devenir une femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ce modèle-là, en tout cas celui que ma mère me propose, auquel je ne veux absolument pas ressembler? Cette femme-là qui pleure en silence, qui crie, qui se frappe en silence et qui devant le monde entier sourit et fait comme si elle acceptait cette polygamie. Je ne veux absolument pas être cette femme-là.
Alors Mignonne sort au mois d'août, après le premier confinement. Et il faut bien le dire, le film ne rencontre pas vraiment son public. Un peu moins de 100 000 spectateurs vont le découvrir en salle. Certains exploitants refusant même de le programmer. On en parlera dans un tout petit instant avec mon invité. Mais qu'importe, le succès critique, lui, est bien là. Et puis, il y a Netflix qui va lui offrir une résonance mondiale. Problème, la plateforme américaine lance une première bande-annonce et choisit une image un petit peu maladroite pour accompagner le film, retitré « Cuties ». On y voit Ami et ses copines danseuses dans des shorts bleu pailleté et dans des positions de danse très très sexy, accréditant l'idée que ce film défendrait l'hypersexualisation des préadolescentes, alors qu'il s'attache justement à la dénoncer.
Les filles, regardez-nous !
Mais non, c'est pas nous.
Ça, oui, mais ça, c'est nous qu'on est là.
Concours ouvert.
C'est quand on va danser. Il n'y aura même plus eux, il y aura nous. Vas-y. Les lunettes, on va leur show. Oh, je vais te
Ça va? Salut. Salut, fille.
Ouais.
Bonjour.
Ouais, ça va.
Vous venez souvent ici?
Ouais, grave.
Ah bon? Non, on vous a pas vu.
Ah, bah, c'est normal, nous, on est là-bas, vous êtes là.
Mais comment vous savez que nous, on est là-bas?
Parce qu'on vous a vu hier.
Ah bon? Vous avez quel âge?
Mais le mal est fait, la polémique est lancée. Face aux critiques, Netflix s'excuse publiquement, regrettant d'avoir mal utilisé cette image qui n'est pas représentative du tout du film. Mais les politiques s'en mêlent, la droite conservatrice pro-Trump s'empare du sujet, le sénateur Ted Cruz demandant même l'ouverture d'une enquête contre Netflix et la réalisatrice Maïmouna Doucouré. Il publie un communiqué sur le site d'extrême droite, le Daily Caller, je cite « Il faut sévir contre Netflix pour son rôle dans la diffusion d'images sexualisées d'enfants dans les foyers américains. Plusieurs personnalités appellent même au boycott de Netflix et à lutter, écoutez bien, contre la diffusion de contenus pédopornographiques. »
Il se passe quoi? Tu sais très bien ce qui se passe. À cause de ta photo de merde, là, on a une sale réputation maintenant. T'es contente?
Ou fais-tu un rôle? Franchement, t'abuses. Tu sais que si moi j'aurais fait ça, ma mère, elle m'aurait direct envoyé au bled.
Elle est sans retour.
Mais on s'en fout, non?
On va leur montrer qu'on est des vraies meufs.
Non, ça fout pas, tout le monde nous met dans le même sac que toi maintenant.
Est-ce que t'as vu au moins les commentaires de ta photo là?
Tu sais qu'il y a des gens qui te demandent que nous on se met comme toi? Nous, on va pas se mettre à poil, hein. Nous, on est pas toi.
Eh, mais c'est pas ça le plus important, non? Le plus important, c'est qu'on gagne le concours. Et réveillez-vous, là, faut qu'on s'entraîne.
Ah, oh, tais-toi.
Moi, je m'en fous, moi je danse.
Et ça va tellement loin que la réalisatrice reçoit même des menaces de mort. Alors en France, le milieu du cinéma la soutient, dénonçant une censure insupportable. En tout cas, Mignonne a le mérite de raconter un type d'histoire peu portée sur grand écran. Un cinéma qui parle plus de diversité. D'ailleurs, ces dernières années, certaines sociétés de production en ont fait leur spécialité. C'est le cas de celle de notre invitée, Laurence Lascari, qui a créé « De l'autre côté du périph » basé à Bobigny. Elle est aussi coprésidente du collectif 50-50 qui œuvre pour la parité et la diversité. Elle sera dans un instant dans le studio de Clap. Mais d'abord, on va écouter un petit peu de musique. Armstrong, signé Claude Nougaro. Vous êtes à l'écoute de Clap sur Europe.
Armstrong, je ne suis pas noir. Je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien de lui là-haut. Les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi qui suis blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge, sans l'avenir faut qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Yeah.
Armstrong, signé Claude Nougaro dans Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. Et aujourd'hui dans Clap, on s'intéresse donc à l'histoire du film Mignonne, signé Maïmouna Doucouré. Toute la polémique aussi qu'en a découlé, je vous en parlais il y a quelques minutes, alors que ce film sort en DVD, VOD. Et pour poursuivre notre réflexion, je voulais accueillir Laurence Lascari. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes productrice et vous avez créé la société De l'autre côté du périph, qui est basée à Bobigny. Vous êtes aussi la coprésidente du collectif 50-50. On en a déjà parlé dans cette émission de ce collectif. Je vais commencer par une question très large, mais toute la polémique autour du film Mignonne, notamment aux États-Unis, selon vous, qu'est-ce qu'elle dit de notre société?
Je pense qu'elle dit, elle dit beaucoup de choses et peut-être une difficulté de une impossibilité à voir dans cette enfant ce qu'elle est, c'est-à-dire une enfant. Et je pense que c'est lié au manque de représentation qui nous est mis à disposition. Donc ça a été en fait, le film choque, le film intervient comme une sorte de coup de poing vis-à-vis de personnes qui n'ont pas l'habitude de ces représentations-là. Et par exemple, moi qui suis d'origine caribéenne, par exemple, les danses, etc. Enfin, tout le propos du film ne me choque pas parce que c'est quelque chose que je connais, en fait. C'est quelque chose auquel j'ai été confrontée. C'est quelque chose qui est réel. Aujourd'hui, des petites filles dansent déjà comme ça. Enfin, et Maïmouna Doucouré l'explique très bien quand elle parle de l'enquête qu'elle a fait pour préparer le film. En fait, c'est déjà là. Donc, intéressons-nous plutôt à la manière dont on va adresser ça s'agissant des petites filles qui ont accès à tous ces contenus sexualisés.
Et pourquoi le film, finalement, n'a pas marché en salle en France? Est-ce que c'est bon, c'est peut-être la crise sanitaire aussi et la réouverture des salles? Ou est-ce que c'est effectivement que le public français n'a pas forcément, peut-être aussi, envie d'aller voir ça au cinéma?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a eu la crise sanitaire, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Et puis, il y a eu aussi des exploitants qui étaient mal à l'aise, que le film mettait mal à l'aise. Ce qui est assez... Enfin, en France, je dirais qu'on a toujours... on est les premiers à arguer de la liberté de création, de la diversité, etc. Au sens des films qui viennent pas de studio, enfin la diversité des regards, hein, pas de la diversité au sens ethno-racial du terme. Et c'est vrai que là, il y a eu beaucoup d'exploitants à RSC qui ne souhaitaient pas programmer le film parce que ça les mettait mal à l'aise. Le distributeur a même fait passer un message sur les réseaux sociaux en disant voilà, pour dénoncer un peu cette situation.
Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que j'allais vous dire, on en voit quand même de plus en plus des films qui parlent de la diversité au cinéma. J'ai quand même l'impression que les choses évoluent, sans doute pas assez vite, ça va sans doute pas assez loin, mais que quand même ça change.
Oui, ça évolue et heureusement, parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui, malgré tout le parcours d'obstacles que ça représente, bien, arrivent à réaliser leurs œuvres et à se faire connaître. Donc je dirais que ça fait partie de la solution, il en faut plus. Il faut que ça se banalise, en fait, cette présence de récits issus de minorités. Il faut faire confiance aussi à ces auteurs-là qui ont bien souvent un parcours autodidacte, qui n'ont pas fait grande école et n'ont pas fait la FEMIS ou autre. Et puis, faire confiance aussi au public parce que il y a une vraie demande. Et si aujourd'hui, les jeunes délaissent de plus en plus la télévision traditionnelle, délaisse le cinéma au profit des plateformes, c'est bien parce que ils ne trouvent pas cette représentation de la société française telle qu'elle est.
Est-ce que c'est mieux sur les plateformes, vous pensez?
Bien sûr, c'est mieux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en tant que professionnel du cinéma, si on a envie de travailler avec les plateformes, ben, il faut vite qu'on se mette au diapason. Enfin, je dis on. Moi, ça fait plus de 10 ans que je le fais. Ouais. Mais en tout cas, il faut vite que l'industrie française se mette au diapason parce que les plateformes sont très claires sur ce qu'elles attendent en termes de diversité. Et la nouveauté, c'est que ce soit à l'image, mais aussi derrière la caméra. Elle demande à ce qu'il y ait une diversité dans les équipes.
Vous pensez qu'il faut en arriver à la discrimination positive, de la discrimination positive obligatoire dans certains films, à l'écran
Je pense que ça, c'est un peu ce qui revient à chaque fois qu'on parle de ce sujet comme la menace absolue. Je pense que ça n'arrivera... Enfin, on en est loin. Je ne pense pas que ça arrivera. Je ne pense pas que ça soit compatible avec... avec notre pays, et surtout, je pense pas que ce soit la solution. En arriver là, ça voudra dire qu'on a tout essayé avant et que rien n'a fonctionné. Il y a énormément de possibilités, de solutions, de choses qui se mettent en place dans d'autres pays, tels que, pour ne citer que ce pays, l'Allemagne, par exemple, qui font leur introspection et qui essaient de voir comment on peut faire en sorte d'être plus inclusif dans l'industrie du cinéma. Et ça permettra de changer les représentations. Et ça permettra, si on va encore plus loin, de changer la société. Parce qu'aujourd'hui, on se crée les représentations à travers ce qu'on voit dans les écrans, à travers ce qu'on voit dans la fiction. Et c'est pour ça que c'est hyper important de donner la parole à plus de personnes qui ne sont pas issues du sérail, qui ne sont pas issues de classes économiques favorisées, etc., pour pouvoir avoir une pluralité de récits.
Et lesquels, vous pensez à quoi, par exemple?
Des personnes qui sont éloignées du cinéma, donc issues de milieux défavorisés, de régions, parce que déjà le cinéma, c'est quand même encore très largement parisien. Donc, ne serait-ce que ça. Et donc c'est plutôt parisien et plutôt bourgeois, parce que quand on veut être artiste, il faut avoir les moyens. Avec le collectif 50-50, par exemple, nous défendons des initiatives qui permettent à des jeunes qui sont éloignés du cinéma de pouvoir accéder à des stages, de pouvoir ne serait-ce que échanger avec des professionnels à travers des actions de mentorat. Et ça, c'est déjà un premier pas parce que on est dans un métier où c'est beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de cooptation. Comment est-ce qu'on peut se faire mettre le pied à l'étrier si on connaît personne? Donc déjà, il faut régler cette première difficulté. Et nous, c'est ce qu'on propose et c'est ce qu'on développe. Et d'ailleurs, nos adhérents qui sont des professionnels du cinéma sont vraiment très heureux de pouvoir élargir leurs horizons et puis voir comment ils peuvent accompagner des jeunes qui ont très envie de travailler dans ces métiers-là.
Merci beaucoup, Laurence Lascari, d'être venue en parler aujourd'hui dans Clap. Merci à vous.
Merci, je vous en prie.
Productrice à la tête de la société de l'autre côté du Péri. Voilà ce qu'on voulait dire et ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur l'histoire de ce film mignonne qui, avant toute chose, est à voir ou à revoir. Faites-vous votre propre avis. Donc voilà, c'est désormais disponible en DVD, VOD. Allez voir et regardez ce film. Merci Laurence Lascarine. On se retrouve dans un tout petit instant pour les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est Pierre Ninet qui a accepté de répondre à notre questionnaire de Proust, mais version cinéma. Pierre Ninet qui devrait être à l'affiche dès que les salles vont rouvrir de pas mal de films, notamment Amant, notamment Boîte Noire, notamment le nouveau SS-117. On verra quels films ont marqué sa vie. À tout de suite.
Clap, Mathieu Charrier.
Et on se retrouve pour la suite de cette émission pour les films de ma vie. Vous connaissez le principe, une personnalité qui répond à un questionnaire de Proust, mais version cinéma, et qui revient sur ses grands souvenirs de cinéma. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Ninet. Bonjour.
Bonjour.
Parce que ça va être un peu l'année Pierre Ninet. On va vous découvrir dans quelques semaines dans Amant, puis dans SS-117, puis dans Boîte Noire. On va vous voir cette année au cinéma.
Vous n'allez plus en pouvoir. Non, bah oui, les films se sont un peu retardés, donc peut-être qu'ils seront un peu plus resserrés. Mais comme c'est trois films extrêmement différents, je suis très content quand même de proposer ça au public. Surtout que c'est trois films que j'adore vraiment pour des raisons vraiment différentes.
On aura l'occasion d'en reparler à chaque sortie de film. Mais aujourd'hui, c'est le questionnaire Les films de ma vie. Vous êtes prêts ?
Je suis pas prêt du tout, mais c'est comme ça que c'est bien.
Première question, votre premier souvenir de cinéma ?
Je dirais que c'est Le Roi et l'Oiseau.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oh pardon. À l'époque heureuse où j'avais bâti mon nid tout en haut du grand palais de l'immense royaume de Taquicardie. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et trois fonds 8 et 8 fonds 16 de Taquicardie. Ce n'était pas un bon roi. Il détestait tout le monde, et tout le monde dans le pays le détestait aussi. La solitude et la chasse étaient ses passe-temps favoris.
Très très beau film que j'ai hâte de montrer moi-même à mes enfants, qui m'avait à la fois perturbé et transporté, et j'ai jamais retrouvé cette poésie à ce point-là, je sais pas. Donc des fois j'aime bien le re-regarder en vrai Madeleine de Proust, pour le coup, j'aime bien regarder, et il me dérange encore, j'aime bien comment ça dérange. Je crois que des fois faut pas hésiter à montrer aux enfants des choses qui sont pas forcément toutes lisses, quoi, pas que du lisse, des trucs qui posent des questions.
Vous étiez petit quand vous l'aviez vu, j'imagine ?
Et 25, 26 ans par là. Non, je sais plus trop, je dirais 6-7 ans.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Votre meilleur souvenir de cinéma ?
Je pense que c'est La Tour Montparnasse Infernale.
C'est de toute beauté !
C'est la première fois que j'ai eu le droit d'aller au cinéma qu'avec des amis, j'avais 11 ans. Et d'être vraiment par terre en PLS, de rire tellement, tellement le film nous avait électrisé.
Ah ! On chercherait pas un objet avec des ongles pour ouvrir un certain coffre plein de billets par ici ? Tiens. Ce serait pas comme de par hasard celui qui me traitait de maigrichon, celui-là ?
Eh ouais ! T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crêpes de mes qui portent. C'est bon, Marie-Joëlle. T'es libérée, nous aussi, on a un otage à 5 doigts.
Eh tiens, pop. Tu bouges pas. Personne ne bouge, hein ?
Sinon, je tire une balle dans la tête à la main.
Alors, ce qu'on va faire, mon copain va glisser la main sous la porte pendant que vous nous contre-glissez, Marie-Joëlle. Ainsi que 5000 francs. 1000 francs. D'accord ? Et surtout, pas d'entour les poules.
Le film que vous auriez aimé voir au cinéma ?
En fait, j'ai vu un film qui s'appelle The Guilty.
Oui.
Ouais, qui est un excellent thriller que je conseille absolument à tout le monde. Il me semble que c'est un film danois. J'ai trouvé le film tellement fort en immersion et tellement fort en écriture. J'aurais bien aimé le vivre dans une salle de cinéma pour être que ce soit vraiment... être encore plus dedans, même si le film est une telle réussite que ça marche très bien chez soi. Mais...
Pour expliquer à nos auditeurs, c'est un centre d'appel type police, et c'est un policier qui a le coup de fil d'une femme qui est enfermée dans un coffre de voiture et qui n'a aucune autre information et qui veut essayer de la sauver que par les coups de téléphone, en résumé. C'est vrai qu'on est avec lui dans cette salle enfermée nous-mêmes.
Le 112, j'écoute. Allô ? Vous êtes Iben ?
Salut, mon cœur.
Vous avez bu ?
Non, pas du tout.
Allez, ça suffit.
Qui vous accompagne ? Eh bien, cette personne sait que vous avez contacté le 112 ?
Non.
Avez-vous été enlevé ?
Oui,
C'est vraiment absolument génial en écriture et en, sur les points de vue qui se changent tout le temps pendant le film. Donc ça, j'aurais bien aimé le voir au cinéma.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre, Pierre Niney ?
Le film dans lequel j'aimerais vivre, Bruce Tout-Puissant. Mais j'aimerais être Bruce.
Il y a quelqu'un ici qui ne fait pas son boulot ! C'est toi !
Tu es sûrement Bruce.
Qui êtes-vous ?
Je suis Dieu.
Sans blague.
Depuis quelque temps, tu n'arrêtes pas de me faire des reproches. Si tu crois pouvoir faire mieux, c'est l'occasion. En quittant ce bâtiment, tu disposeras de tous mes pouvoirs.
Le film que vous avez le plus vu.
Cinquième élément, il doit être pas mal. Après, je pense qu'il y a le Truman Show et le Dictateur de Chaplin.
Trois styles très différents. Pour
ouais.
Moi.
Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leur merveilleuse promesse. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!
Le chef-d'œuvre que vous détestez, Pierre Niney.
Une demoiselle de Rochefort.
C'est vrai?
Ouais.
On me le cite souvent dans les films.
Ah ouais, non.
Et pourquoi?
Bon, je sais pas, c'est très personnel, ça m'irrite.
Delphine! Viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place. Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Bon, non. Tu crois?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol ré do.
Ça mérite un peu les demoiselles de Rochefort. Ça, les, je sais pas, la petite rengaine et tout. Ça...
On sent même ça vous crispe physiquement.
Ouais, j'ai envie de te gifler là, toi. Pourquoi t'es encore là, toi?
Le film qui vous a fait le plus rire.
Le film qui m'a fait le plus rire, alors il y avait La Tombe Parnasse Infernale, ouais. Et puis il y a eu pas loin Astérix et Cléopâtre de Alain Chabat.
Parce que toutes les références.
Tout. Ouais, c'était, et puis je le voyais pile à la bonne époque, moi aussi, c'était exactement ce dont j'avais envie et dont j'ai toujours envie. Hein. Je trouve toujours que c'est un film ultra, ultra maîtrisé, très drôle.
C'est quoi cette lueur à l'horizon numéro 10?
Les lumières du port d'Alexandrie.
Font naufrager les papillons de ma jeunesse.
Hein?
Non, je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai faim.
On sera à Alexandrie au matin. Là-bas, c'est la tour de l'île de Pharos, dont le feu guide tous les navires.
Un feu qui guide tous les navires. Ils sont fous, ces Égyptiens.
C'est une des sept merveilles du monde, Obélix. Imagine le plus grand édifice jamais construit par l'homme.
En tout cas, j'ai plus d'appétit qu'à Barracuda. Barracuda.
Un dialogue de cinéma que vous connaissez par cœur.
Il y en a très peu. J'ai oublié assez vite, moi.
Là, vous apprenez des dialogues en plus, alors ça...
Oui, c'est ça, ça vient recouvrir. Mais je retiens pas plus les miens non plus. Non, mais il y a des dialogues très courts que je connais par cœur quand même. Mais dans La Cité de la Peur, il y en a pas mal. Moi, j'aime bien. C'est Bah, on n'attend pas votre sœur de Dominique Farrugia. Il dit ça à Odile Doré, à l'aéroport. Et ça me fait beaucoup rire.
Aéroport de Nice. 2 minutes d'arrêt.
Et voilà. Au revoir, Simon.
Au revoir, Sylvie.
Bonjour, Simon, je suis Odile Doré. Simon Jérémy, voici Serge Karamazov.
Aucun lien.
Voilà donc Monsieur Karamazov qui sera chargé de votre confort, de votre sécurité. Vous avez des bagages, Simon?
Ah ben non. On m'a dit de venir, pas de venir avec des bagages. Pourquoi il fallait que j'en prenne?
Non, c'est pas grave. Allons-y.
Dites, on n'attend pas votre sœur?
Et pour conclure, Pierre Niney, la bande originale qui a le plus marqué votre vie?
Interstellar.
Ah.
Ouais, de Hans Zimmer. J'adore. Ouais, je trouve ça magnifique, ultra planante, magnifique.
C'est du genre à écouter.
Ah ouais, je l'écoute souvent, ouais. Ouais, je l'écoute souvent.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre Niney, d'être venu nous rendre une petite visite dans Club. Je rappelle donc votre actualité, Amant, bientôt au cinéma. Puis OSS 117, puis Boîte Noire. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant, le temps d'accueillir dans ce studio mes collègues critiques.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et on se retrouve pour les critiques dans Clap, votre émission cinéma. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Leclerc de Paris Match et Thierry Chaise de Première. Messieurs, bonjour.
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 Bon, on a un gros programme. On va parler de One Night in Miami. Ça, c'est sur Prime Video. Exceptionnellement, on va aussi parler d'une série, WandaVision, qui débarque sur Disney+. Je voulais qu'on en parle parce que c'est inspiré et tiré de l'univers Marvel. Donc comme on s'est tapé tous les films Marvel, on va parler de la série. On débattra de revenir sur OCS et du dernier film de Woody Allen, Un jour de pluie à New York, qui était sorti en salle et qui a débarqué sur My Canal. Mais donc, on commence d'abord avec One Night in Miami.
C'est ici que la petite fête a lieu. Bonsoir, Monsieur Cook.
If you find somebody new, there's nothing I can do.
Trop rapide.
Trop rapide.
Bah, j'arrivais même pas à voir les coups à certains moments. Tout ce que j'ai vu, c'est la tête qu'il avait. Oh. C'était magnifique, Cash. Quel spectacle.
Votre ami est déjà arrivé.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Je me disais bien, sa voiture ne passe pas inaperçue.
Je l'ai fait entrer comme vous l'aviez demandé. Vous avez besoin d'autre chose?
Non, mon frère, nous nous débrouillons.
Dieu est grand.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà le film qui est adapté de la pièce de théâtre du même nom. On est le 25 février 64 en pleine ségrégation aux États-Unis. Cassius Clay, qui ne s'appelle pas encore Mohamed Ali, devient champion du monde de boxe. Malcolm X, oui, lui-même, lui propose alors de célébrer sa victoire avec deux autres personnalités noires. Il y a le musicien Sam Cooke et le footballeur Jim Brown. Ils s'attendent donc tous à une énorme soirée. Mais non, parce que Malcolm X a prévu autre chose, une grande chambre calme dans un motel de Floride, rien que pour eux. Et nuit pendant lesquelles va commencer une grande réflexion autour de la condition noire, de l'engagement de chacun. Alors c'est signé de la réalisatrice Regina King, qui s'est inspirée de cette rencontre qui a bien eu lieu, mais dont on ne sait pas grand-chose, qui signe donc un faux biopic, un huis clos. Messieurs, oui, non, Thierry Chaise.
Oui, non, bien au contraire. Non, mais c'est intéressant en soi. C'est vraiment le genre de film, et l'adjectif est souvent dur, mais c'est intéressant. En effet, comme vous le dites, cette rencontre a bien eu lieu. Ça a donné lieu à une pièce de théâtre, et on sent bien que ça a donné lieu à une pièce de théâtre quand on voit le film, puisque on est certes dans un huis clos, mais en même temps, il y a peu de grandes innovations en termes de mise en scène. Après, c'est un film qui pense ce qui s'est passé à l'aune d'aujourd'hui. Mmh. Et donc, on s'imagine que cette soirée a été un moment décisif dans le mouvement des Noirs américains autour de Malcolm X et va être décisif dans tout ce qui suit. Alors, ça, c'est un jeu qui peut être assez amusant, mais qui a aussi ses limites. Après, c'est très bien joué, je trouve. Tous les personnages sont bien campés. Mais il y a quelque chose... Voilà, c'est un film qui est extrêmement cérébral et je trouve qui reste, comme sa mise en scène, confiné dans cette cérébralité.
Bon, One Night in Miami, Fabrice Leclerc ?
Non, écoutez, moi j'ai plutôt aimé. Pourquoi ? Parce que c'est le premier film d'une actrice, Regina King. Et Dieu sait si elle se sort quand même d'un film, donc adaptation théâtrale. Mmh. Et Dieu sait si c'est dur d'adapter quatre mecs dans une chambre de motel qui vont discuter toute la nuit. C'est assez intéressant le fait d'être une petite souris et de rentrer dans cette soirée entre ces quatre Avengers Black de l'époque, parce qu'on est quand même avec Malcolm X, avec Sam Cooke, avec les grands leaders noirs de cette époque. On a aussi cette vision, Cassius Clay qui va devenir Mohamed Ali, le musicien qui est plutôt, il dit nous les Blacks, on va réussir en faisant notre art. Malcolm X est là, non, il faut vraiment faire de la politique. Après, c'est un peu long, c'est un peu bavard, mais c'est extrêmement bien écrit, adapté d'une pièce de théâtre, c'est vrai. Il faut savoir que celui qui avait écrit cette pièce est celui qui a écrit Soul. Le film Pixar, donc voilà. Et puis quand même dire que à nouveau, et il y aura encore d'autres films, il y en a un je crois prévu sur Billie Holiday aujourd'hui sur les plateformes, c'est là qu'on parle de la condition des Noirs aux États-Unis, des droits civiques. On a beaucoup de films qui viennent, qui arrivent et qu'on a déjà vu sur ce thème-là. Encore une notion intéressante au moment où Hollywood est dans les nimbes.
Et ce qui boucle la boucle, c'est le cas de le dire avec notre invité tout à l'heure sur le film Minion. Deuxième film dont je voulais qu'on parle aujourd'hui après One Night in Miami, c'est une série. Je me tournerai que vers Fabrice puisque Thierry ne l'a pas encore découvert.
Le méchant.
Mais il va rattraper tout ça. Ça s'appelle WandaVision. C'est donc sur Disney+.
Mais qu'est-ce qu'une célibataire comme vous peut bien faire dans une maison aussi gigantesque?
Mais je vous assure que je suis mariée à un humain, un homme parfait et grand.
Wanda.
Nous sommes vraiment un couple pas comme les autres.
Oh, nous n'en avons jamais douté une seconde.
Nous ne savons pas ce qui va nous arriver.
Alors, WandaVision, c'est adapté de l'univers Marvel. Restez avec nous, même si vous n'y connaissez rien, parce que vraiment, c'est...
Parce que sinon, je sors aussi.
Voilà, déjà, et puis c'est pas le propos de la série, je vous explique. Vision, c'était un personnage Marvel qui avait disparu d'ailleurs dans le dernier Avengers. Wanda, eh ben, c'était sa copine, son amoureuse, qui était dévastée. On avait découvert ça, c'était la fin de la phase 3 de l'ère Marvel. Sauf que là, eh bien, on les retrouve au début de la série, mariés, installés ensemble dans une petite maison pavillonnaire. C'est tourné façon sitcom des années 50, puis 60, puis 70. C'est-à-dire que dans chaque épisode, ça évolue un petit peu. Au début, c'est en noir et blanc. Petit à petit, la couleur va arriver. Alors nous, on a eu le droit de découvrir les trois premiers épisodes. Je ne vais pas trop vous en dire sur l'intrigue parce qu'il se passe beaucoup de choses. On les voit filer le parfait amour dans l'American Way of Life. Il y a dans chaque épisode un ou deux petits éléments troublants qui viennent se glisser. On imagine qu'au fil de la série, on va découvrir pourquoi. Et on va aussi découvrir pourquoi Vision est de nouveau en vie, puisque en théorie, il était mort. Voilà, moi je dois avouer qu'effectivement je ne suis pas le plus grand client de l'univers Marvel. Là j'ai été surpris, j'ai rigolé, j'ai hâte de découvrir ce qui va suivre. Ouais. Fabrice, qu'en avez-vous pensé ?
Ben, exactement la même chose, je ne suis pas un grand fan de Marvel, tout le monde le sait, et pourtant j'ai été capté. Pourquoi ? Parce que c'est un pari, c'est ultra culotté. C'est un peu comme The Mandalorian dans l'univers Star Wars. C'est que Disney, qui pourrait continuer à faire des séries en exploitant le filon, en surexploitant le filon du gros boom-boom avec les messieurs en collant, eh bien pas du tout. On part dans la sitcom des années 50, noir et blanc, comédie musicale avec des rires enregistrés.
Mais c'est ça, l'ancienne.
On est à l'ancienne, on découvre Wanda et son mari Vision. Et on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. On est un peu dans Truman Show. C'est-à-dire et je suis tout... en train de dire quand même qu'une production Marvel pour Disney Plus fait penser à Truman Show.
C'est-à-dire que tout va, mais ça ne va pas. C'est ça qui est bien. Hein? C'est-à-dire que tout va à l'image. Ils sont amoureux.
Et on sent bien qu'il y a un problème.
Et qu'on va le découvrir.
Non, les trois premiers épisodes sont extrêmement prometteurs. C'est très addictif. Et moi, j'ai un peu peur pour les fans de Marvel. Je pense qu'ils vont être légèrement déstabilisés par ce qu'ils vont voir.
On n'est pas dans le film de super-héros comme on a pu le découvrir parfois avec les Marvel. Mais voilà, effectivement, on a eu le droit de voir, à mon avis, c'est pas un hasard, 3 des 10 premiers épisodes de la première saison. Donc on découvrira avec délice. Les deux premiers sont déjà sur Disney+. Il va y en avoir comme ça au fur et à mesure. Et on a hâte de voir et de découvrir ce que ça va donner. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs d'en reparler dans cette émission. Ça s'appelle WandaVision, vous trouvez ça sur Disney+. Clap. Et je voulais qu'on dise un mot de Revenir qui débarque sur OCS.
Bonjour. Il est là, ton grand-père ?
Hey, vous êtes qui ?
C'est ton père qui t'a appelé.
Maman ! J'arrive.
Non, ma mère, elle m'a laissé un message. Ton frère, il a vendu pas mal de parcelles pour s'en sortir. Mon père a laissé faire. Elles sont passées où, les vaches ?
Vendues. Ça va pas suffire à payer les dettes, si tu veux savoir. Pourquoi tu fais ça, dis ?
Mon père, c'était ton frère.
Oui.
Ton petit frère.
Oui.
Revenir qui est adapté du roman de Serge Joncourt. Alors c'est un drame familial dans lequel on tue Thomas et Neil Schneider. Encore lui d'ailleurs, ce qu'on le voit beaucoup en ce moment au cinéma, qui après avoir passé plusieurs années au Canada revient dans la ferme familiale. Alors il est notamment accueilli par Mona, la compagne de son frère décédé. Elle est jouée par Adèle Exarchopoulos. Accueilli aussi par leur fils de 6 ans. Mais très vite, Thomas se rend compte que l'exploitation est surendettée, que son frère a dû vendre beaucoup de parcelles de terre, que ça ne tourne plus vraiment. Rajoutez à cela que sa maman est mourante, que son papa se terre dans le silence. Et vous avez, je vous le disais, un drame familial dans le milieu rural, avec son économie plus que précaire, avec une petite dimension thriller, puisqu'on va petit à petit découvrir la vérité sur la mort de son frère. Thierry Chaise, Revenir.
Depuis Petit Paysan, on sent que voilà, on aime bien justement partir dans l'univers de l'agriculture
de la
pour
ruralité.
Essayer de faire quelque chose. La ruralité, faire quelque chose. C'était très réussi en Petit Paysan. On verra, on aurait dû voir depuis aujourd'hui, on verra dans quelques semaines, le plus tôt possible, la nuée, où là, d'un seul coup, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus fantastique.
La Terre des Hommes aussi, qui va arriver.
La Terre des Hommes qui va arriver aussi.
Et plein de films.
Très bon film
un
aussi.
Un film avec Jaïd Lespère
Diane Rouxel.
Et Diane Rouxel.
Eh bien, au milieu de cela, que j'ai trouvé moi tous très bons, je trouve que Revenir fait un peu pâle figure. C'est-à-dire que tout est ancré, on y croit, on n'est pas du tout, c'est pas le débarquement des gens de la ville à la campagne. Il y a quelque chose de très juste. Moi, j'aime beaucoup ce que font et Adèle Exarchopoulos et Neil Schneider.
Ah bon ?
Mais j'ai l'impression, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où Neil Schneider met les pieds dans cet endroit, je vois tout ce qui va se passer. Ouais. Je vois tout. Et donc, j'assiste, comme dans une pièce de théâtre écrite à l'avance, à chaque rebondissement, c'est pas déplaisant. Mais on se dit, bon, à un moment, ça va un peu se décaler. Et non, on continue. Et le film s'achève, voilà, tel qu'on l'a imaginé. Et c'est pour ça que je suis resté sur ma faim.
Je me tourne vers Fabrice, c'est le petit abon que j'ai entendu. Ouais. Allez-y. Ouais.
Alors, écoutez, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Thierry. Oui, c'est un film français d'auteur totalement balisé. Le jeune qui revient dans sa famille, il va évidemment tomber amoureux de son ex-future belle-sœur. On a un peu de chronique sociale. On est vraiment dans ce cinéma d'auteur qui est toujours dans la même veine. Je trouve qu'Adèle Exarchopoulos joue toujours la même chose, et voilà.
Comme Harrison Ford, je t'en jette mon exemple, moi.
Oui, enfin, comparer Adèle à Harrison Ford et Jean Reno.
Ou Jean Reno.
Non, moi voilà. Non. Bon. Non, après, je trouve qu'il y a une mise en scène, oui. Et il y a une réalisatrice qui s'appelle Jessica Palu, c'est son premier film, et c'est son deuxième film.
C'est son deuxième film. Beaucoup plus intéressant.
Et je trouve qu'il y a une incandescence dans ce film, et une certaine légèreté, alors qu'on est dans un drame social un peu lourdeau et balisé. Il y a des scènes lumineuses. Nils Schneider est génial parce que c'est un très très grand acteur et c'est pour ça qu'on le voit partout dans tous les films français en ce moment. Mm-hmm. Alors voilà, je suis assez balancé entre ce côté très gnangnan et très 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 dans les rails et cette mise en scène. Pour moi, il y a quand même une réalisatrice derrière qui a envie de dire des choses.
Vous avez vu cet exercice de style, il aime, il aime pas, mais il conseille sans conseiller. Voilà. Revenir, qui débarque.
Mais j'aime Harrison Ford.
Il débarque donc sur les chaises. OCS, et puis je voulais aussi qu'on dise un mot, puisqu'on en avait beaucoup parlé déjà au moment de sa sortie en salle, du nouveau film de Woody Allen, alors qui n'était pas sorti aux États-Unis, qu'on a eu la chance de découvrir en France. Ça s'appelle Un jour de pluie à New York.
J'ai décroché une interview avec Roland Pollard à Manhattan.
Oh, mais c'est absolument génial.
Depuis le temps qu'on parle de se faire un week-end là-bas en amoureux.
Central Park. Si j'étais toi, je ne serais pas ma copine seule avec un réal d'Hollywood.
Aimeriez-vous un scoop ?
De champagne ?
Vous êtes OK ?
Ouais.
Chan Tyrell.
Salut, Gatsby. Je suis un peu embarquée dans une histoire compliquée. Ce film Rolly en est carrément pas content.
Attends, tu l'appelles Rolly ?
Oui, et t'aidez-moi, il faut qu'on le retrouve.
Et qu'est-ce qui fait ? I make a day.
Le résumé est assez facile, comme souvent chez Woody Allen, puisqu'on est plus dans l'ambiance que dans l'histoire. C'est donc Ashley, étudiante dans une petite université, qui rêve de devenir journaliste et qui décroche une interview de son réalisateur préféré pour le journal étudiant. Elle propose à son petit ami Gatsby de partir ensemble à sa rencontre à New York, sauf qu'il va pleuvoir, beaucoup pleuvoir. Alors lui, sorte de dandy, va écumer les clubs de jazz et les musées. Elle vit son rêve éveillé, vont croiser une escort girl, un acteur, une mère un peu bizarre. Tout ça, je le redis, sous la pluie. Dans un New York quelque peu disparu aujourd'hui, Fabrice Leclerc.
Vous l'avez dit vous-même, c'est de l'écriture automatique. Voilà. Alors, ça fait 10 ans ou 15 ans que Woody Allen n'a pas fait un film réellement inspiré. Peut-être Blue Jasmine, évidemment, Match Point. Bah oui, mais ça fait plus de 10 ans, hein. Mm-hmm. Quasiment 10 ans. Non, voilà, on est dans la petite musique de Woody Allen.
Pas désagréable.
Qui pas désagréable, bien sûr, c'est Woody Allen, mais qui n'a plus grand-chose à dire. On est toujours avec ces petites jeunettes qui essayent de se taper des quadras ou des quinquas. Je m'excuse, moi, ça me dérange un peu. Surtout avec ce qui s'est passé. Enfin bon, passons. Non, voilà, j'aimerais beaucoup que Woody Allen retrouve la verve de ses débuts. J'aimerais que Woody Allen retrouve la verve de ses grands films. C'est très beau. On voit New York. Oui. Voilà. Après, c'est quand même un film extrêmement mineur. Pas très bien joué, je trouve. Bon. Je reste sur ma faim. Je pense que Woody Allen a déjà tout dit. Je ne sais pas, faudrait peut-être qu'il...
Thierry se dandine sur sa chaise.
Moi, j'ai adoré.
Un jour de pluie à New York.
J'ai adoré. Moi, ça faisait depuis Blue Jasmine où j'étais très déçu. Bon, l'idée qu'une petite jeune soit amoureuse de quelqu'un plus âgé, je pense qu'on peut éliminer les trois quarts du cinéma américain et les 4/5 du cinéma français. Donc, si c'est ça l'angle, bon, c'est sûr que c'est éliminé. Ensuite, je trouve qu'il y a un mélange de mélancolie et de lumière dans ce film qui, moi, m'a beaucoup touché. Mélancolie à travers ce personnage de Timothée Chalamet, tout ce qu'il va traverser, qui est un peu la vision désabusée d'Woody Allen, et puis lumière à travers le personnage d'Elle Fanning, le personnage de Selena Gomez, sa capacité à aller vers justement des jeunes comédiens et ne pas tourner sempiternellement avec les mêmes, comme beaucoup de réalisateurs qui sont plutôt vers la fin de leur carrière. Il y a des personnages incroyables, le personnage de la mère, l'écriture de ça. Si ça, c'est de l'écriture automatique, il faut qu'il donne le secret à plein
c'est
de gens.
De l'écriture automatique de Woody Allen, oui.
Faut donner le logiciel à plein de gens. Hein.
Elle est quasiment aussi fan de vous que sa pilule du lendemain. Non, mais c'est bon, quoi.
C'est,
oui.
Moi, c'est plus drôle que les trois quarts des trucs qu'on voit.
Excusez-moi, non.
Et voilà. Et après, c'est vrai qu'on a eu la chance d'écrire en France, c'est pas sorti là-bas. On sait que Timothée Chalamet a ensuite dit vraiment, j'ai eu honte de travailler avec Woody Allen. Sachant qu'entre le moment où il a travaillé avec Woody Allen et le moment où le film est sorti, il n'y a pas eu d'affaire supplémentaire. Donc ça, c'est toujours un petit peu bizarre. Voilà.
Non, mais sortons de l'affaire. Voilà, Woody Allen est un grand metteur en scène, tout le monde est d'accord. Ça fait très très longtemps qu'il fait,
bon Woody Allen.
Qu'il fait des films voilà. mineurs et celui-là c'est est un Woody bon... Allen extrêmement mineur. Non,
dans ces cas-là, chers auditeurs, allez-vous faire votre avis un jour de pluie à New York. Vous trouvez ça sur MyCanal ou en VOD. D'ailleurs, vous pouvez le trouver aussi. On a aussi débattu de Revenir sur OCS, Vendavision qu'on vous conseille chaudement sur Disney+, et One Night in Miami sur Prime Video. Messieurs, merci Fabrice Leclerc, Paris Match, Thierry Chaise, première, avec toujours Jean Dujardin en une. D'ailleurs, on a vu cette semaine la première vraie bande-annonce et, d'OSS 117.
Et Elisabeth Olsen dans les pages de Paris Match cette semaine.
Et ben voilà, vous avez tout le programme. Il vous reste plus qu'à acheter la presse. Nous, on se retrouve samedi prochain, 14h-15h, pour un nouveau numéro de Clap. Émission réalisée cette semaine par Jérémy Hébert, préparée par Marjorie Adelson, que vous retrouvez évidemment cette émission en podcast sur toutes vos plateformes. Merci à tous de nous écouter chaque semaine et rendez-vous samedi prochain 14h-15h pour un nouveau numéro de Clap sur Europe 1. Europe 1.